Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage. Ce soir, le Canada qui entre en résistance contre Donald Trump. Rien ne va plus entre les deux grands voisins nord-américains. En plein bras de fer depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président américain qui n'a de cesse de malmener son allié canadien en l'écrasant de droits de douane, menaçant même de doubler encore ses taxes avant de faire marche arrière. Une brutalité commerciale qui accompagne de puissants désirs d'annexion. Trump martelant vouloir faire du Canada le 51e État américain. De quoi faire bondir toute la nation canadienne, farouchement attachée à ses frontières et à son identité, et qui, comme le nouveau Premier ministre Mark Carney, se dit prête au combat en jurant que jamais le Canada ne fera partie des États-Unis de quelque façon que ce soit. Ottawa entre en résistance, prête à l'offensive. Mac Carney, le prodige de la finance, peut-il gagner la guerre commerciale contre Donald Trump? Et ce bras de fer rapprochera-t-il les Canadiens de la vieille Europe, également malmenée par Washington? On fait le point ce soir avec nos invités. À mes côtés dans ce studio, Jérémy Guez. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC, également auteur du livre « États-Unis, déclin improbable, remont impossible » paru chez VA Éditions. Et en ligne avec nous depuis le Canada, Geneviève Tellier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École d'études politiques d'Ottawa. Bienvenue, bienvenue à vous deux sur RFI. Et pour commencer, Jérémy Guez, peut-être un mot pour expliquer cette véritable fixette de Donald Trump sur le Canada. Comment expliquer une telle convoitise de la première puissance mondiale sur son voisin et allié historique ?
Alors, je pense qu'il y a l'explication de l'image de marque de Donald Trump et puis l'explication un peu plus géopolitique. L'image de marque, c'est de se dire finalement, les États-Unis sont un grand pays et cette expansion, elle nourrit un peu ce sentiment nationaliste qui est une marque de fabrique importante de la coalition qu'il a menée au pouvoir. L'image de marque, c'est aussi Donald Trump, cette expérience de l'art du deal, d'essayer de faire des demandes extravagantes, d'essayer de pousser le plus loin possible pour peut-être avoir quelque chose en retour. Il y a une explication géopolitique et je dois vous avouer ce soir que parfois je me demande si c'est pas rationaliser un petit peu trop la pensée de Donald Trump. Ce qui est clair, c'est qu'on est quand même face à une rivalité assez significative avec la Chine, que l'un de ses théâtres, c'est l'Arctique et que donc l'accès à l'Arctique, eh ben, ça joue un rôle fondamental, que ça soit d'ailleurs avec le Groenland ou le Canada. Mais là encore, je vous avoue, est-ce que c'est rationaliser la réflexion de Donald Trump un peu trop.
Est-ce qu'on peut penser que l'ambition de Trump, c'est vraiment d'écraser de taxes hein, avec ses droits de douane le Canada pour le faire chuter et pouvoir ensuite annexer le pays?
Je pense que vraiment annexer, c'est vraiment imaginer un petit peu trop dans quelque chose qui a commencé véritablement comme une guerre idéologique.
Ça n'ira pas jusque-là.
Oui, que pour lui, la première cible de Donald Trump, c'était Justin Trudeau, qui incarnait politiquement, idéologiquement, un point de vue d'image, tout ce que Trump déteste et tout ce que Trump n'est pas. Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. L'annexion, bien entendu, il aime bien cette idée que ça plane dans l'air. Je pense vraiment que c'est une méthode de rentrer dans un rapport de force en position de force plutôt qu'une réelle intention.
En tout cas, des velléités expansionnistes du président américain qui suscitent une véritable levée de bouclier chez les 40 millions de Canadiens, boycott des produits US, l'hymne américain est même sifflé lors des compétitions sportives. Geneviève Tellier, est-ce que le rejet est d'autant plus fort que les Canadiens se sentent trahis par ce qu'ils pensaient être leurs amis américains?
Oui, je pense que vous avez bien mis le doigt sur le fond du problème. Ce sont nos alliés les plus près. Ce sont des gens que l'on connaît bien, avec qui on fait affaire quotidiennement. Il y a des liens personnels, il y a des liens familiaux. Il y a beaucoup de familles dont justement la famille vit des deux côtés de la frontière. Et donc, durant les bons et les mauvais côtés, on a toujours été ensemble, unis. On a juste à penser à la guerre en Afghanistan, par exemple. On était là pour aider les Américains. Quand il y a eu le 11 septembre aussi, on a accueilli tous les avions qui étaient détournés. pouvaient plus atterrir aux États-Unis. Et donc, la liste est longue. Et c'est ce sentiment de trahison-là qu'on ne s'explique pas. Et c'est une trahison, c'est pas juste Donald Trump, c'est le peuple américain. C'est-à-dire qu'on se demande où sont les Américains qui sont nos amis et qui devraient nous aider et qui devraient voir qu'on a des intérêts communs. Et on ne les entend pas en ce moment. Alors, ça l'a fait, au début, il y a eu justement cette colère-là. Et cette colère-là ne s'éteint pas. Alors, vous avez mentionné toutes les manifestations. Oui, on boycotte les produits américains. On ne veut plus en Floride passer nos hivers. On siffle les équipes américaines durant les hymnes nationaux au Canada. Et je n'ai pas l'impression que ça va vraiment s'arrêter parce qu'il y a vraiment une colère ici au Canada et un regain de nationalisme aussi. Alors, je n'ai jamais vu ce sentiment patriotique autant au Canada, surtout au Québec, ce qui est quand même étonnant. Mais on sent que ça a vraiment changé la situation et donc on ferait front commun vis-à-vis M. Trump et vis-à-vis les États-Unis en général.
Geneviève Tellier, est-ce que le Canada vient de trouver peut-être son homme providentiel en la personne de l'économiste Mark Carney qui va prendre demain ses fonctions de premier ministre canadien? Il souhaite incarner la résistance contre Washington, même s'il est novice en politique, il a de sérieuses références, il en a les moyens?
Les moyens, très certainement, les connaissances aussi. Est-ce que c'est la personne qui va se révéler pour faire face aux Américains? Tout le monde l'espère. Et il y a vraiment un appui derrière, un appui de la population derrière lui. Alors, on va bientôt aller en élection. On va voir si ça va vraiment se concrétiser. Mais pour l'instant, c'est vu comme étant la personne qui peut nous aider. Et surtout, la personne qui n'a pas juste un plan à court terme, mais à long terme aussi. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut réduire notre dépendance avec les Américains. Alors, M. Carney, qui était gouverneur de la Banque du Canada lors de la crise financière de 2008-2009, connaît les crises. Sait comment les gérer. Il était aussi gouverneur de la Banque d'Angleterre au moment du Brexit en Angleterre. Il sait gérer d'autres genres de crises aussi. Et donc, on met beaucoup d'espoir dans ses capacités, son habilité à justement pouvoir trouver un terrain d'entente avec les États-Unis. Mais c'est de l'espoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu des actions concrètes. Et je pense que pour M. Carney, il va devoir rapidement répondre aux demandes de la population canadienne, c'est-à-dire d'avoir certains résultats tangibles pour calmer un peu la situation, parce qu'en ce moment, on est dans la surenchère actuellement avec les Américains.
Il est l'homme quand même qui rassure les Canadiens avec son brillant CV d'économiste pour le moment.
Pour le moment, oui, mais comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas un politicien de carrière. Alors, c'est une chose d'arriver avec tous ces états de service et dire, je sais comment faire, mais c'est une autre chose de convaincre les Canadiens en tant que politicien d'envoyer un message clair, un message rassurant, je voudrais même un message d'optimisme pour la suite des choses. Et on l'a vu dernièrement parce que, il y a eu une course pour qu'il devienne chef du Parti libéral et il l'a gagné, mais durant cette course-là, on voyait bien qu'il n'y avait pas tous les codes pour naviguer dans le monde politique. Et donc, on verra si il va apprendre rapidement. On pense que oui, mais encore là, ça reste à être démontré. Et s'il va pouvoir justement avoir cette capacité à communiquer avec les Canadiens, une capacité qu'on attend de la part d'un premier ministre. Ce que Justin Trudeau, par ailleurs, avait réussi à faire et lors du premier mandat de Donald Trump et durant les dernières semaines, lorsque lui aussi avait à gérer toute la question des tarifs douaniers.
Jérémy Guez, ce prodige de la finance, Mark Carney, est-ce qu'il peut tenir tête à la brute Trump, comme disait justement Justin Trudeau, ou simplement aider à limiter les dégâts face à ce rouleau compresseur américain?
En tous les cas, dans ses premières déclarations, il fait preuve de beaucoup de combativité. Et ce qui est assez frappant, d'un point de vue, je dirais, de marqueur de notre ère, c'est qu'on a Donald Trump, le showman, celui qui ne se cache pas d'essayer de s'appuyer sur son charisme pour faire avancer les négociations, et de l'autre, Mike Carney, qui s'est quand même construit pendant assez longtemps une image de technicien. Et le technicien pourrait-il faire face, finalement, aux populistes? Ça, c'est véritablement une question du 21e siècle. C'est en tout cas le choix des Canadiens, et je pense que la carte qu'il aura à jouer, c'est peut-être celle de la crédibilité et de la légitimité politique. Je pense que cette carte-là, elle n'a pas marché aux États-Unis. Une des questions ouvertes, c'est est-ce qu'elle peut encore marcher dans d'autres parties du monde occidental? Et là, on a un premier test grandeur nature au Canada.
En attendant, le choc va être rude. Hein. L'économie canadienne se porte pas super bien. Un déficit budgétaire de plus de 60 milliards de dollars pour le Canada. Est-ce que ça risque pas, si Trump maintient ses droits de douane, d'être un véritable désastre pour l'économie canadienne?
Alors, indubitablement, notamment et surtout parce qu'on sait que les guerres commerciales sont coûteuses pour tout le monde. Y compris pour le Canada.
Qui est très dépendant de ses exportations avec les États-Unis.
Hein.
C'est quoi, 77% des exportations canadiennes vers les États-Unis.
Et qui est ciblé tout particulièrement dans cette guerre commerciale. Alors, ça date, mais quand même, la référence pour les économistes sur cette question, c'est la crise des années 30. Le monde a changé, mais les mécanismes sont les mêmes. Un commerce international qui se rétracte et qui se rétracte, ça crée des difficultés économiques absolument énormes. Et effectivement, ça pourrait précipiter un certain nombre d'économies, dont le Canada, qui connaît quelques fragilités fiscales à l'heure actuelle, vraiment dans une position extrêmement difficile. Alors, la véritable question, c'est comment réagir ? À court terme, on a vu les Canadiens très combatifs, donc on l'a dit, et donc rentrer dans le même langage que Donald Trump est menacé de représailles. Et ça, c'est logique, ça s'entend. Mais le véritable enjeu, ça va aussi de se demander ça sera quoi la mesure du jour d'après. Comment est-ce qu'on va imaginer finalement une autre architecture du monde? Alors là, effectivement, on est à des années-lumière d'en parler immédiatement, quoique...
On n'y est pas.
On n'y est pas. Oui, mais il y a encore quelques preuves ici et là. Mais en tous les cas, ça va être l'enjeu pour les Canadiens et pour tous les autres alliés occidentaux des États-Unis.
Quelles armes pour Mark Carney pour contre-attaquer sur les droits de douane américains? Est-ce que son arme la plus importante, c'est des taxes sur les exportations d'énergie? Il faut frapper là où ça fait mal pour les Américains?
Alors, l'énergie, ça fera indubitablement très très mal, parce que l'Amérique dépend énormément du Canada pour tout ce qui est énergie. Il faut aussi se dire que peut-être que l'outil ultime, c'est de parier sur des dynamiques internes politiques aux États-Unis. Par là, je veux dire que les États-Unis ont un surplus manufacturier avec le Canada et que tous ces tarifs douaniers risquent aussi de mettre à mal l'industrie américaine qui va devoir acquérir les biens et les ressources premières canadiennes à des prix plus élevés. Ça risque de créer aussi des difficultés économiques aux États-Unis et on sait à quel point ces difficultés économiques peuvent être extrêmement, extrêmement coûteuse dans le contexte des mid-termes de novembre 2026 qui sont après-demain.
Geneviève Tellier, le Canada peut faire mal également à l'économie américaine?
Oui, et c'est la stratégie qu'on emploie. Alors, c'est vraiment de dire œil pour œil, dent pour dent. Si vous nous imposez des tarifs douaniers de 25%, ben on va faire la même chose. C'est la réciprocité. Il faut pas oublier que pour 37 États américains, le Canada est le premier acheteur de leurs produits. Alors, on a quand même un point important. C'est sûr qu'on n'a pas le même poids que les États-Unis. Les États-Unis, c'est une économie qui est 10 fois plus grande que celle du Canada. Alors, déjà, vraiment, on est très petit par rapport aux Américains, mais on a des biens qui sont essentiels. Alors, par exemple, l'aluminium dont on parle beaucoup en ce moment, l'aluminium qui est produit au Canada est de meilleure qualité, de meilleur marché, et c'est tout simplement parce qu'on a une énergie abondante qu'on peut le faire. Les Américains ne pourront pas trouver d'autres sources d'approvisionnement à moins de payer le fort prix. Alors, effectivement, c'est de jouer sur les prix et de jouer dans le portefeuille des consommateurs américains où comme ça, eux vont pouvoir prendre conscience des problèmes, des enjeux et ensuite faire pression sur leur administration respectives. Je voudrais aussi mentionner que le Canada, ben, premièrement, on connaît très bien les Américains. On est 10 provinces, 3 territoires, et chacune des provinces a ses propres relations avec les Américains et ses propres politiques commerciales aussi. Alors, on voit de plus en plus des gouvernements provinciaux faire pression sur les Américains. Par exemple, maintenant, on a banni l'alcool américain dans toutes les épiceries détenues par les gouvernements provinciaux, ce qui sont des larges marchés. Et on entend maintenant certaines provinces dire « je vais limiter la vente d'électricité aux États-Unis ». Et ça commence à faire effet. Les Américains portent beaucoup plus attention depuis que ces mesures-là sont discutées publiquement.
Est-ce qu'Ottawa réfléchit également, on l'imagine en tout cas, à diversifier ses échanges commerciaux avec des partenaires sans doute plus fiables, comme le Royaume-Uni, bien sûr, mais également l'Union européenne? Est-ce que c'est une nécessité?
Je pense que l'Union européenne vienne en tête de liste. On a déjà, d'ailleurs un traité de libre-échange qui a été négocié entre l'Union européenne et le Canada, mais qui n'est pas encore formellement mis en vigueur, quoique partiellement, oui. Ce serait très certainement un marché à considérer, d'autant plus qu'en ce moment, nos relations avec la Chine et avec l'Inde ne sont pas très bonnes pour toutes sortes d'autres raisons d'enjeux politiques. Et donc, se tourner naturellement vers l'Europe, ça serait une chose à faire. Il ne faudrait pas non plus oublier le Mexique. Alors, si les États-Unis ne veulent plus de traité de libre-échange avec
également
le Canada...
Également à la peine avec les États-Unis, oui.
Et donc, se tourner vers le Mexique. Et il y aurait l'Amérique du Sud aussi, avec qui il y aurait, pour qui il y aurait des marchés à développer. Mais je pense qu'en ce moment au Canada, l'idée, c'est de regarder vers l'Europe, un marché qu'on connaît peut-être un peu mieux que d'autres marchés, pour justement essayer de se diversifier.
Pour autant, Geneviève Tellier, les Canadiens ne sont pas tentés de rejoindre l'UE, hein, même si 40% d'entre eux y seraient favorables. Ça tient à quoi? À l'affection, à l'humour?
Oui, mais je pense que le contexte va changer. Alors, peut-être oui qu'on ne l'est pas tellement en ce moment, mais avec toutes les nouvelles circonstances qui arrivent, on va peut-être changer d'opinion sur ces enjeux-là. Alors, je pense que faut voir des changements arriver éventuellement.
Jérémy Guez, vous l'évoquiez, cette situation, ce bras de fer, cette guerre commerciale, ça pousse nécessairement à la construction d'une nouvelle architecture commerciale et le Canada sera en première ligne dans cette définition-là.
Oui, on vient d'en définir un petit peu les principes. Effectivement, cette proximité entre l'Union européenne et le Canada, je suis prêt à faire un pari que d'ici 10 ans, l'économie canadienne pourrait être plus intégrée avec les économies européennes qu'avec l'économie américaine et que cette proximité géographique ne sera pas aussi déterminante. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est en train de se jouer aujourd'hui entre l'Amérique latine et les Européens. Je le dis parce que le Canada pourrait être aussi partie prenante. C'est aujourd'hui, tout cet accord entre l'UE et le Mercosur, il y a dans la négociation un organe de règlement différent, ce qui permettrait à n'importe quel pays de traîner en justice un autre pays pour essayer de régler les différends commerciaux. Là, on est en train de réinventer cette architecture mondiale, on est en train de réinventer le multilatéralisme, on l'a fait à Paris aussi hier avec les Canadiens sur des questions de sécurité, on est en train de le faire sans les États-Unis et sans la Chine. Et ça, c'est effectivement le Canada, en tant que puissance nord-américaine, occidentale, mais non états-unienne, pourrait jouer un rôle absolument fondamental.
Geneviève Tellier, un dernier mot. Est-ce que c'est sur l'équation politique canadienne, est-ce que c'est Marc Carney qui accueillera Donald Trump au Canada pour le sommet du G7 en juin? Il sera encore là, votre avis?
Excellente question. Alors, les élections, normalement, devraient avoir lieu en octobre prochain. Maintenant, on a un gouvernement minoritaire. On s'attend à ce que Marc Carney déclenche les élections la semaine prochaine. Alors, en toute probabilité, tous les experts s'entendent sur ce point-là. Toute probabilité, on va être en campagne électorale jusqu'à la fin du mois avril. Donc, fin avril, début mai, je pourrais vous donner une réponse plus claire. On saura qui sera le prochain premier ministre. Actuellement, les deux principaux partis sont au coude à coude, donc le Parti libéral de Mac Carney et le Parti conservateur de Pierre Poilievre. Mais c'est un renversement considérable. Il y a à peine 6 semaines, le Parti conservateur menait dans les sondages par 25 points d'avance. Alors, c'est pour vous dire qu'en 6 semaines, la dégringolade du Parti conservateur, qui, lui, n'a pas su bien répondre à la menace des barrières tarifaires de Donald Trump. Et pour l'instant, c'est le Parti libéral qui a vraiment le vent dans les voiles, ce qui explique fortement pourquoi on irait vers des élections... On déclencherait des élections de la semaine prochaine.
Trump pourrait avoir tué la candidature de Pierre Poilievre, le conservateur canadien, que certains d'ailleurs appellent parfois mini-Trump. C'est le paradoxe. C'est ça.
Et M. Poilievre n'arrive pas à se détacher de cette image-là parce que lui-même continue à faire des déclarations controversées. Alors, il a annoncé il y a quelque temps qu'il allait suspendre l'aide étrangère canadienne, une chose que Donald Trump fait actuellement. Alors, M. Poilievre n'a pas réussi à se présenter à la population canadienne comme étant une personne qui avait, elle aussi, l'expertise et le savoir-faire pour gérer cette situation de crise. Et oui, voilà. Le dommage collatéral, à mon avis, de toute cette histoire-là, c'est le Parti conservateur et son chef.
Du président Trump. Merci Geneviève Tellier, en direct d'Ottawa, professeur à l'école d'études politiques, et Jérémy Guez, professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC. Merci à vous deux d'avoir été au rendez-vous sur RFI.
Merci.